France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et à la tête de la nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier, aujourd'hui, à nouveau largement, sur la situation internationale en Iran et au Groenland. Et puis pour le débat, nous recevrons une psychiatre qui exerce au sein du service addictologie de l'hôpital Marmottan à Paris et qui publie en ce mois de janvier « Les assoiffés » aux éditions Grasset, une plongée dans le monde de l'addiction au plus près de ses patients qui souffrent et qui tendent un miroir peu flatteur à notre époque où trônent nos dénis, nos failles et où règne le culte du plaisir immédiat et de la performance. La psychiatre Camille Charvet est aujourd'hui notre invitée pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Allez, les semaines se suivent et se ressemblent un peu, puisqu'à nouveau nous allons nous intéresser au Groenland et à l'Iran. Mais dans les deux cas, la situation a beaucoup, beaucoup évolué pendant la semaine. On commence avec l'Iran, où Donald Trump, qui appelait hier les manifestants à descendre dans la rue et qui leur promettait son soutien, a brusquement changé de ton.
On nous a dit que les mises à mort en Iran étaient en train de prendre fin. Il n'y aurait plus aucun projet d'exécution, plus aucun. On m'a assuré de sources sûres que nous en serions informés si cela arrivait. Et si cela arrive, vous pouvez être sûr que nous en serions très contrariés.
Gilles, comment expliquer cette volte-face, disons, spectaculaire du président américain ?
Au terme de ces 10 jours, le régime iranien ne tient plus qu'à un fil. Il est affaibli à l'extérieur, affaibli à l'intérieur en ayant perdu depuis longtemps ses moyens de redistribution, et affaibli parce qu'on a mesuré à quel point il était honni par une majorité considérable d'Iraniens qui veulent son départ. Et en même temps, le régime est solidement accroché à ce film. Oui. Et au terme de ces 10 jours, je crois, on a vraiment, et en entendant Donald Trump, c'est renforcé, un sentiment amer. Amer parce que les Iraniens, beaucoup d'Iraniens ont été massacrés, et que ce massacre a été préparé lorsque les autorités judiciaires et politiques qualifient d'ennemis de Dieu les manifestants dans un régime théocratique, et lorsqu'ils coupent les réseaux de communication, c'est non seulement un permis de tuer, mais c'est presque un devoir de tuer. Et amertume, et c'est là où je réponds à votre question, parce que les Iraniens ont été abandonnés. Ils ont été abandonnés par les États-Unis et par Donald Trump, qui leur disait « manifestez, nous arrivons ». Ils ont manifesté et personne n'est venu. Et c'est là où se pose l'autre question, ils ont été abandonnés aussi, et il y avait évidemment un lien de cause à effet entre les deux, abandonnés par leurs voisins et par tous leurs voisins. Il y a eu une convergence de l'Arabie Saoudite à Israël, du Qatar à Oman jusqu'à la Turquie, pour ne rien faire, ou en tout cas pour ne pas intervenir militairement aujourd'hui. Et pour des raisons différentes, soit qu'ils se satisfont, que certains se satisfont d'avoir une Iran diminuée, c'est le cas par exemple de l'Arabie Saoudite, soit qu'ils redoutent des représailles, il faut être allé à Oman ou au Qatar pour mesurer la proximité de l'Iran, soit qu'ils redoutent une déstabilisation de l'Iran, la Turquie, déstabilisation qui risquerait de réactiver la question kurde, l'Arabie Saoudite et le Qatar qui craignent une déstabilisation des marchés pétroliers, des marchés du gaz, du commerce maritime, soit, dernière hypothèse, qu'ils estiment que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour faire tomber le régime iranien, c'est sans doute le cas des Israéliens.
Et donc, et des États-Unis qui ne croient pas du tout, par exemple, dans l'hypothèse du retour du Shah.
Alors, aussi, d'où ce sentiment, je pense, de de solitude et d'amertume que doivent éprouver les Iraniens qui sont descendus dans la rue. Alors, c'est sans doute pas, c'est certainement pas la fin de l'histoire. Je pense que la chute de ce régime est en marche, mais que nous vivons un moment qui est un moment douloureux.
Natacha, ce moment douloureux, ce pays au bord de... ce régime, en tout cas, au bord de la chute, est-ce que c'est votre analyse aussi, ou bien vous vous dites... Bah finalement, c'est terrible, mais rien de nouveau sous le soleil après 2009, après 2022. C'est à nouveau des Iraniens qui descendent dans la rue, qui sont écrasés, et un monde impuissant qui, en tout cas, refuse d'agir clairement.
Alors, on a véritablement le sentiment d'avoir vécu le Tiananmen de l'Iran. Et il y a, en effet, comme le dit Gilles, une amertume. Il y a ce sentiment que des jeunes gens d'un courage absolument inouï ont été sacrifiés. C'est d'autant plus comparable à Tiananmen que, pour la première fois, il y a eu des prises de position. Il faut refaire la séquence, il faut la retracer. Quand le bazar se met en grève
pour
des questions d'inflation, de pouvoir d'achat, il y a eu, souvenez-vous, ce message très étrange du Mossad sur X, incitant, comme il ne l'avait jamais fait, par ces mots, « Sortez ensemble dans les rues, l'heure est venue, nous sommes avec vous, nous sommes aussi avec vous sur le terrain. » Ce qui était terrible parce que c'était laisser croire que ces manifestants qui se battaient d'abord, alors au début c'était économique, et puis immédiatement c'est devenu une lutte pour la démocratie, eh bien c'était un baiser de la mort, dans la mesure où ça laissait croire que ces gens étaient manipulés de l'extérieur, ce qui est faux. Il y a eu des manipulations, mais les jeunes gens qui manifestaient en Iran le faisaient par désir de démocratie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, par la suite, on a vu beaucoup en Occident une mise en avant de Reza Pahlavi, le fils du Shah. Oui. Là aussi, sa cote a monté en Iran, mais ce n'était pas majoritaire. Et tout le problème auquel sont confrontés les Iraniens, c'est qu'il n'y a pas de solution de remplacement immédiate, pas de figure de rassemblement de l'opposition. Et c'est sans doute ce qui explique...
Pardonnez-moi, Natacha, et pour cause, après quasiment 50 ans de régime et d'une opposition décimée, et pour cause.
Mais bien sûr, les opposants laïcs, démocratiques et qui veulent soutenir la souveraineté de l'Iran sont tous, en effet, en prison, ont été tués. Et hélas, il est très difficile de restructurer cela. Et ce n'est pas en proposant un retour au passé qu'on peut emporter la majorité de la société iranienne. C'est bien le problème. Donc, les voisins de l'Iran ont eu peur d'une déstabilisation et d'une guerre civile. Le problème est que, on en revient toujours à cela, un régime ne peut tomber que par sa population. Bien sûr qu'il faut soutenir, bien sûr qu'il faut aider de l'extérieur, bien sûr qu'on se doute que les services de renseignement occidentaux ont aidé, ont fourni des armes, ont donné des cibles, bien entendu. Peut-on faire plus que cela ? C'est toute la question dans un État comme l'Iran, qui vit encore sur un clientélisme qui consolide le régime. Dernier point, la principale inconnue, que pense la Chine, qui voit que ses alliés sont attaqués les uns après les autres, et dans quelle position est-elle face à cela ? Comment va-t-elle réagir à terme ?
On a commencé avec Tiananmen, on finit avec la Chine. Natacha, voilà, qui fait sens. Il y a une autre référence historique, moi, qui m'intéresse, Gilles, peut-être, et je vous la propose, celle de Budapest en 1956, où les États-Unis aussi avaient soutenu, notamment par les radios, Radio Free Europe, par exemple, les manifestants, les avaient poussés à descendre dans la rue, et quand il a fallu venir les soutenir, les aider, effectivement, face au char du pacte de Varsovie, il n'y avait plus personne. Est-ce que c'est de même nature, cet abandon ? Est-ce que cet abandon restera dans l'histoire ?
Alors, une nuance par rapport à ce que disait Natacha, je trouve qu'on a beaucoup entendu, c'est-à-dire dans la généalogie de ce mouvement, ça a été un mouvement social, puis ça s'est transformé en mouvement politique. Mon sentiment est que le mouvement social était dès le début un mouvement politique, pour la raison suivante, c'est que les difficultés sociales ont été imputées par les Iraniens au régime. C'est le régime qui est la cause des sanctions, c'est le régime qui est à l'origine de la corruption et des enrichissements indus liés à l'effondrement du cours et aux importations et aux marges que certains se sont fait sur les importations. Deuxièmement, le parallèle avec Budapest que vous faites, enfin, c'est un Budapest sans l'URSS.
Voilà.
Et donc, c'est pas Budapest. C'est-à-dire qu'on voit...
Il aurait pu y avoir la Chine, mais là, il n'y a pas la Chine.
Non, il n'y a pas la Chine. Et ce que vous posez l'un et l'autre, en réalité, c'est la question de... en interrogeant aussi sur la figure de l'opposition, c'est la question de la transition. Comment... Parce qu'on a beaucoup d'exemples historiques de régimes dictatoriaux, de régimes totalitaires qui se sont effondrés. Et quand on essaye de faire une typologie des différentes modalités de cette transition, vous avez eu des transitions souvent qui ont été organisées par le pouvoir lui-même. C'est vrai en URSS,
justement,
Gorbatchev, que vous évoquez, mais d'une certaine manière, c'est vrai de Franco affaibli qui transmet le pouvoir de chef de l'État à Juan Carlos. C'est vrai de Pinochet qui organise un référendum pensant le gagner et qui le perd. Et puis, à l'autre extrême, vous avez des transitions qui sont des révolutions où le pouvoir a été balayé. C'est vrai en Afghanistan, le premier taliban par l'intervention américaine. C'est vrai il y a peu en Syrie par un mouvement armé intérieur. Et puis, un peu entre les deux, il y a la situation qu'on vient de connaître au Venezuela, qui est à la fois une révolution où, par une intervention extérieure, le président est enlevé et emprisonné, et on a une transition avec, avec les mêmes. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'Iran, mon intuition est que, connaissant... C'est un régime qui est un régime théocratique, par nature... qui trouve son origine dans Dieu, ne peut pas transmettre le pouvoir à un autre type de régime. Et que donc la transition douce est sans doute très compliquée. La question est de savoir le jour où l'ayatollah Khamenei n'est plus là pour une raison ou pour une autre, il est par ailleurs très âgé, est-ce que ça ouvre une fenêtre ou pas ?
Natacha, juste pour dire, c'est théocratique à moitié seulement, parce qu'il y a aussi une dimension démocratique en Iran qu'on nommait souvent, mais les gens votent. Donc c'est là, à chaque fois, il y a une espèce de double légitimité, c'est un régime assez particulier quand même.
Oui, enfin, on sait où est le pouvoir quand même.
Oui, d'accord.
On sait où est le pouvoir, en effet, mais on peut ajouter que c'est un pays extrêmement éduqué, qui produit actuellement plus d'ingénieurs que les États-Unis. Bref, c'est un pays qui a un potentiel immense. Le seul problème, c'est la position d'un régime comme celui-là sur la scène internationale. Une révolution ne peut pas bien se passer si derrière, il n'y a pas la possibilité pour le peuple qui s'est libéré d'être véritablement souverain et donc de ne pas être le jeu d'influence, d'ingérence. Si c'est un gouvernement extérieur qui est placé à la tête, en général, ça ne se passe pas bien.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcé dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes.
Emmanuel Macron, président français, mercredi midi, au moment de ses vœux aux armées, l'Europe née de la guerre, avec un projet de paix perpétuelle protégé par les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se réveille en 2026 au cœur des guerres d'aujourd'hui et à venir, et avec les États-Unis comme rival. Natacha, est-ce qu'on vit un moment, pardonnez-moi pour le terme, mais historique ?
Bien entendu, mais les moments historiques ces derniers temps ont tendance à se multiplier.
Oui, c'est pour ça que j'hésitais un peu.
Je pense qu'il n'y a pas d'autre attitude possible pour les Européens que d'affirmer la souveraineté du Groenland dans le cadre de son appartenance au Danemark. Et qu'il y a un petit texte, moi, qui m'a beaucoup amusée sur la revue Le Grand Continent, qui est de Raphaël Liorca, qui rappelle l'opération de l'amiral Muselier sur Saint-Pierre et Miquelon en 1941.
Muselier.
Exactement. Et qui rappelle comment le général de Gaulle, sentant que les États-Unis allaient essayer de prendre possession de Saint-Pierre et Miquelon pour éviter que Vichy ne donne des renseignements aux Allemands, a trouvé insupportable cette mise sous tutelle et a envoyé donc l'amiral Muselier, qui a pris pied. Et quand les États-Unis furieux ont voulu récupérer l'île, De Gaulle a fait savoir aux Britanniques que si les États-Unis s'approchaient d'une certaine ligne, eh bien, ils feraient tirer. Mmh. Donc, je pense que ça nous raconte ce que c'est que la souveraineté territoriale. Mais au-delà de l'anecdote, le problème que nous avons derrière, eh bien, c'est le fait que les Européens ont des intérêts divergents. Premier point, la réaction de Mark Rutte, qui dirige l'OTAN et qui est totalement, évidemment, soumis aux États-Unis et qui, en fait, cherche à ménager la chèvre et le chou, puisqu'on sait qu'une attaque des États-Unis a fort peu de chances d'arriver, ça ne sait pas, c'est pas comme ça que ça va se passer, mais ça ferait exploser dans la seconde l'OTAN. Le risque, ce n'est pas ça. Donald Trump a menacé hier de droits de douane tous ceux qui résisteraient. C'est qu'en fait, la pression économique va s'amplifier. Or, nous avions cité la semaine dernière, Gilles l'avait évoqué, le fait que le 21 décembre, Donald Trump a nommé un conseiller spécial pour le Groenland, chargé donc de que le Groenland devienne américain. Le 29 décembre, les Danois et les Américains ont signé un nouveau contrat d'armement. Ce qui montre l'indépendance des Européens vis-à-vis des États-Unis. On sait que l'Allemagne a tout fait jusqu'à présent pour préserver ses exportations vers les États-Unis et éviter une guerre commerciale. Bref, il y a une dépendance totale. J'ajoute que dans la mesure où des Européens, par exemple, de la Cour pénale internationale peuvent se faire couper leur boîte mail par Microsoft, par Google, pardon, à la demande de l'administration américaine, il devient beaucoup plus difficile d'entrer dans un rapport de force, et c'est pourtant ce qui va devoir être fait, mais ça nécessite justement d'assurer une indépendance dans tous les domaines où, pour l'instant, nous sommes une colonie américaine.
Alors, la fin est assez... Voilà, c'est assez clair. Gilles, je vous demande pas si nous sommes une colonie américaine ou pas, mais est-ce qu'on doit acter d'un divorce avec les États-Unis, sortir d'une forme de déni? C'est un peu ce qu'a dit le vice-chancelier allemand avant-hier, en disant voilà, la bascule est là, il faut maintenant prendre acte que peut-être que la relation transatlantique, elle appartient au passé.
Oui, enfin, franchement, elle n'est pas là cette semaine avec le Groenland. Ça fait maintenant un moment que, si on n'a pas compris qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on ne regarde quand même pas très bien. Vous disiez, on a parlé déjà la semaine dernière du Groenland. Oui. Et pourtant, en une semaine, il s'est passé encore des choses très importantes. Ça aurait pu être une semaine d'apaisement. Oui. Quand du côté américain, on voit qu'il y a à la fois un Congrès inquiet, un clan MAGA qui est circonspect, une opinion américaine qui est massivement opposée à cette opération. Du côté européen, on aurait pu avoir aussi une forme d'apaisement par crainte de s'aliéner ce qu'il reste du soutien américain en Ukraine. Et on a eu, au contraire, une montée en tension. On a eu une montée en tension avec une réitération américaine au plus haut niveau. Lorsque le ministre des Affaires étrangères du Danemark et du Groenland, qui sont allés voir Marco Rubio et Jill Evans à Washington, parlent de désaccord fondamental après leur entretien, on mesure ce qui a dû se passer. Et quand Donald Trump lui-même explique qu'il ressent psychologiquement, c'est le mot qu'il utilise, la nécessité d'une propriété américaine sur le Groenland.
C'est pour lui, dit-il, le signe du succès, la propriété.
Bon, on voit cette réitération américaine. Et face à ça, il y a eu, et c'est ça l'élément nouveau, une réaction européenne. Il y a eu des déclarations et il y a eu des actes. C'est ceux que l'on vient d'entendre avec Emmanuel Macron, qui sont modestes militairement, évidemment, mais qui sont très significatifs symboliquement. Et puis, on a eu une deuxième chose cette semaine, c'est une clarification. Parce qu'il y avait une ombre qui obscurcissait ce dossier depuis le début, qui est celle du colonialisme européen. Il y avait une gêne danoise, et puis il y avait une prudence européenne, et il y avait une prudence européenne qui était liée à la gêne danoise, mais qui était liée aussi au fait que le Groenland a un statut très particulier. C'est-à-dire que, comme Emmanuel Macron a dit dans un autre discours, ou peut-être dans le même, que le Groenland appartenait à l'Union européenne, ce n'est pas le cas. Le Groenland a choisi et a un statut qui est très particulier. Non seulement il n'est pas membre de l'Union européenne, il n'est pas même non plus région ultra-périphérique, ce qui est le cas d'un certain nombre de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion. Il est un statut particulier qui s'appelle les pays et territoires d'outre-mer, dans lequel il y a aussi d'ailleurs des territoires français comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie, qui ne font pas partie de l'Union européenne, ne sont pas soumis au droit européen et qui ont un statut très particulier d'associé. Je termine d'une phrase, l'ombre, cette ombre qui pesait, elle est levée puisque face à la pression, c'est le Groenland et le Danemark sont allés ensemble à Washington, que le Premier ministre du Groenland a déclaré que s'il fallait choisir entre le Danemark et les États-Unis, il choisissait le Danemark, mais elle n'est levée que temporairement parce que les habitants du Groenland doivent choisir leur destin, c'est-à-dire sans doute cheminer lentement vers l'indépendance dans une relation étroite avec l'Union européenne. L'urgence, c'est que l'offensive américaine soit déjouée.
Oui, la grande question, c'est peut-on être indépendant en 2026 ? C'est une question qui se pose aux Groenlandais et aussi aux Européens, Natacha.
Exactement, c'est la question fondamentale et les Groenlandais font partie, évidemment, il faut être lucide, on ne peut pas être indépendant tout seul dans ce monde.
Voilà.
Et nous-mêmes Français, nous le savons. En revanche, nous devons être indépendants avec nos alliés qui, eux aussi, doivent vouloir être indépendants, mais ça nécessite des outils précis. J'ajoute que quand on lit le communiqué du ministère de la Défense allemand sur l'envoi de troupes, enfin, des quelques troupes qu'on a envoyées pour l'instant, qui parle d'étudier les possibilités pour assurer la sécurité face aux menaces russes et chinoises de l'Arctique, la mission consiste à recueillir des informations fondamentales sur les conditions générales sur place, pour les possibilités d'intervention et d'entraînement en vue de planification au sein de l'OTAN.
Ben c'est très habile.
Vous voyez à quel point les Européens sont prudents. Tout cela est lié aux risques russes et chinois et pas du tout aux États-Unis, bien sûr.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Allez, dernier sujet du duel, d'ailleurs, qui n'est pas absolument absent des considérations sur le Groenland, c'est le climat. On va évoquer le bilan annuel de l'Observatoire annuel européen du climat. Le climat, le réchauffement climatique qui tue déjà et qui tue beaucoup France Inter en octobre dernier.
C'est la première fois que ce consortium de chercheurs dénombre les morts causées par les vagues de chaleur, 546 000 chaque année, en moyenne à cause du réchauffement climatique depuis 2012. Un mort chaque minute, alerte Oli Jay, co-auteur du rapport. Il dirige le centre de recherche sur les effets de la chaleur pour la santé à l'université de Sydney.
C'est un niveau très surprenant. Une des choses qui nous inquiète vraiment, c'est d'atteindre un point de bascule physiologique, une combinaison de température et d'humidité tel qu'il n'est pas possible à l'homme d'y survivre après un certain temps d'exposition.
Voilà qui est très gai pour terminer ce duel, Gilles. Le climat se réchauffe, se dérègle, on l'a entendu, les conséquences humaines mais aussi économiques sont énormes. Et ce n'est que le début, à lire le bilan annuel de l'Observatoire européen du climat Copernicus, publié mercredi. Que révèle-t-il ce bilan que vous avez lu avec beaucoup d'attention, Gilles ?
Il y a une série de données qui ont été publiées simultanément cette semaine sur le réchauffement. Il y a eu ce rapport, mais il y a eu aussi le rapport des rapports français, des rapports européens. Tout ça sonne comme un rappel à l'ordre. Nous regardons, et nous avons raison de le faire, les terres glacées du Groenland, mais pendant ce temps-là, la planète continue de se réchauffer et nous continuons à ne pas être à la hauteur du problème. Si j'essaye de résumer à l'excès ces différents rapports sur le réchauffement, depuis trois ans, 2023, 2024, 2025, nous sommes au seuil symbolique de plus 1,5 degré d'augmentation des températures. C'est-à-dire que l'objectif...
Pardon, je fais une petite note de bas de page parce qu'on ne le dit jamais par rapport à l'ère pré-industrielle. Par rapport à l'ère pré-industrielle.
Vous avez raison de le préciser. Et précision pour précision, cet objectif de plus 1,5 degré était celui de 2100 dans les accords de Paris. Donc ça, c'est sur le réchauffement. Et sur les émissions... Les rapports qui ont été publiés permettent de contrebattre deux idées reçues. La première, c'est que l'Union européenne n'est plus le bon élève du monde. C'est en Asie, en Inde, en Chine que les efforts les plus substantiels sont faits. Et il est vraisemblable que le pic des émissions en Chine soit atteint avec une dizaine d'années d'avance. Et la France n'est pas le bon élève de l'Europe. On va être très en deçà des objectifs que nous nous étions fixés pour atteindre en 2030 la baisse de 50% des émissions. Et qui plus est, c'est sans doute la baisse est davantage liée, quand on regarde secteur par secteur, à une dimension conjoncturelle d'attrition de l'économie qu'à des modifications structurelles de mutations écologiques. Conclusion, on a là aussi un très gros problème avec les États-Unis. On a parlé du Groenland avant, on a parlé de l'Iran précédemment. On a sur le climat un très gros problème avec les États-Unis parce que le plus mauvais élève, ce sont les États-Unis. Chez nous, en Europe, ça a baissé moins que prévu, mais ça a baissé. Aux États-Unis, ça a continué à augmenter et à augmenter de manière significative. Et puis, nous avons un problème avec nous-mêmes, nous, Européens, nous, citoyens. Dans le dernier baromètre, Eurobaromètre, on voit que la priorité à l'environnement est descendue à la 13e place sur 15 priorités testées. Et nous reculons sur les objectifs que nous étions fixés.
Notre invité psychiatre qui s'est déjà installé pour nous dire pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre ce que l'on sait du climat et ce que l'on en fait. Mais on en parlera dans un instant. Natacha, sur cette question climatique.
Oui, pour prolonger ce que disait Gilles, la baisse en France est de 1,6% par rapport à 2024, alors que les objectifs climatiques 2030 étaient de moins 4,6% par an. Donc, en effet, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous avions promis, mais surtout, c'est le ralentissement, c'est ce que disait Gilles, des industries métallurgiques, chimiques, de cimenterie, qui explique ça. Et l'exemple, par exemple, de l'agriculture est très intéressant. On a une baisse de 1,8% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture française, qui est due à la réduction du cheptel bovin. Sauf que nous augmentons notre consommation de viande. C'est-à-dire que nous sommes perdants sur les deux tableaux. Nous ne préservons pas, en fait, l'environnement, et dans les émissions de gaz à effet de serre, il ne faut pas regarder celles qui sont produites sur le sol, mais les émissions par notre consommation, pour être honnête. Mais en fait, nous externalisons notre pollution, donc nous nous ruinons et nous ruinons la planète. Alors que la décarbonation ne peut se faire que par un grand plan d'infrastructure, par exemple, pour privilégier le fret, le train, par des mesures qui doivent être celles du carbone consommé, et donc il faut produire sur place dans des usines décarbonées plutôt que d'exporter. Vous voyez, or nous ne faisons pas cela tout simplement parce que le dogme de la libre circulation rend les choses beaucoup plus faciles. Quand on produit ailleurs, on pollue ailleurs.
Tout ça va coûter très cher et ça me permet de dire un mot sur les annonces de Sébastien Lecornu hier soir sur le perron de Matignon. Gilles, est-ce que c'est de nature à faire retomber la pression, à faire passer un budget ou au contraire il faut attendre un peu?
Alors,
En quelques secondes.
En moins d'une minute. Allez. Dans la grande série Le Budget, dans la saison 3 de la grande série Le Budget, on arrive au dernier ou à l'avant-dernier épisode et nous sommes encore dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'arbitrage sur les recettes, on a eu les dépenses, on n'a pas les recettes, on ne connaît pas encore la procédure qui va être retenue, on sait qu'il n'y aura pas un vote de l'Assemblée, mais on ne sait pas s'il y aura des ordonnances ou s'il y aura le 49-3, et on ne connaît pas complètement l'issue, même si on s'approche d'un pays qui aura un gouvernement et un budget. Il y a une continuité dans cette histoire, c'est que pour le projet de loi de finances, comme pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est avec le Parti Socialiste que le Premier ministre noue l'essentiel des compromis en veillant à ce qu'il ne soit pas trop indigeste pour les Républicains. Et il y a une nouveauté, c'est qu'on est un peu à front renversé puisque c'est le Parti Socialiste, en exigeant qu'il y ait des recettes supplémentaires, qui se fait le garant du déficit à 5%, ce qui était inattendu. Et je termine par une phrase d'une intuition politique. Qu'en regardant le débat budgétaire et l'habileté du Premier ministre, en regardant le casting de 2027 et les difficultés des macronistes, en regardant la dernière vague du baromètre IFOP Paris Match où Sébastien Lecornu apparaît en deuxième position,
roulement de tambour,
nous allons avoir un moment Lecornu.
Vous voyez, c'est comme dans toutes les bonnes séries, il y a plein de choses inattendues, des mystères et une révélation finale. On attend avec impatience.
Ça sera pour la saison 4.
La saison numéro 4. Allez, place au débat du grand face-à-face.
Le grand face-à-face. Le débat.
Bonjour Camille Charvet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin, psychiatre donc à l'hôpital Marmottan au service addictologie. Vous consultez également en libéral en tant que psychothérapeute. Et de cette expérience de terrain, vous avez écrit ce livre qu'on a beaucoup aimé, Les Assoiffés, aux éditions Grasset. Qui sont les assoiffés? Pourquoi le sont-ils? Et plus encore, qu'est-ce qu'ils nous disent de nous, de la société? Ce sont les questions que pose votre essai, mais pour bien l'ancrer dans le temps présent. France 2, journal de 20h, c'était cette semaine.
Sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle,
en pleine semaine de Noël, une cargaison volumineuse en provenance du Mexique. À l'intérieur, officiellement des pièces métalliques. Mais au moment des contrôles aux zones de fret, les douaniers s'attardent sur plusieurs palettes. C'est là qu'ils découvrent des cristaux blancs, 207 kilos de méthamphétamine, une drogue de synthèse particulièrement dangereuse. Une quantité rarement vue, signe selon les experts, d'un trafic d'une ampleur très importante.
Alors quand vous entendez ce genre d'informations, certains pensent aux forces de l'ordre, d'autres aux dealers, d'autres aux cartels. Vous, est-ce que c'est aux consommateurs que vous pensez, aux malades que vous avez devant vous en consultation ?
Bien sûr, et je pense beaucoup à cette multiplication de l'offre de drogues de toutes sortes. Alors la cocaïne, ça on en parle beaucoup, Le marché de la cocaïne a explosé, mais là on parle de méthamphétamine, c'est-à-dire tous ces nouveaux produits de synthèse, ces drogues qui sont produites dans des laboratoires, dont le nombre et l'offre a littéralement explosé ces dernières années, offrant toujours plus de possibilités aux consommateurs.
Ça, c'est important dans votre livre. Vous dites, on va revenir aux raisons pour lesquelles les gens prennent des drogues, que ce que cette addiction révèle de notre société, de ses manquements, de ses promesses, etc. Mais vous parlez aussi beaucoup de l'offre qui s'est multipliée. Ça, c'est important. On peut pas ne pas le dire. Aujourd'hui, quand on cherche de la drogue, on en trouve très facilement.
Oui, j'ai des patients qui me disent « j'ai de la drogue plus vite qu'une pizza aujourd'hui ». Donc, en effet, c'est devenu quelque chose de très très facile à obtenir. Là où, jadis, mes vieux patients, si je puis dire, il fallait quand même prendre un certain nombre de risques pour avoir de la drogue, aller dans des lieux qui étaient compliqués. Et donc, ça faisait aussi barrière. Alors qu'aujourd'hui, ça ouvre à des profils très différents, et donc une diversité vraiment étonnante, la possibilité de consommer, quoi.
Et la facilité d'accès a-t-elle rompu une forme de tabou aussi dans la consommation ? Est-ce que vous sentez ça chez les gens qui vous disent bah « en fait, la facilité d'accès fait qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de particulièrement interdit ?»
Oui, absolument. Alors, on peut dire que l'accès aux drogues s'est démocratisé, même si je ne sais pas si c'est un terme heureux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'imaginaire de la drogue. C'est-à-dire qu'on a connu des temps où la drogue, se droguer, c'était aussi une pratique contestataire. C'était aussi une façon de porter parfois un message politique. Et c'était souvent une façon de s'opposer aux normes et à la société telle qu'elle était. Alors qu'aujourd'hui, ce que je vois bien plus, c'est plutôt des personnes qui sont tout à fait insérées, qui ne contestent rien du tout, qui essaient plutôt de tenir. J'ai encore eu une nouvelle patiente hier qui est une mère de famille en apparence hyper fonctionnelle, avec un boulot extrêmement prenant et qui consomme de la coke et des nouveaux produits de synthèse. Et donc ça, c'est une énorme différence, oui.
Ça veut dire que vous pouvez ici nous faire un portrait robot de vos patients où il y a tellement de différences qu'il est aujourd'hui très difficile d'aller dire, comme Emmanuel Macron par exemple, que les consommateurs sont les bobos des centres-villes.
Alors,
d'ailleurs, comment est-ce que vous avez entendu ça ?
Ça m'a fait rire, mais en fait, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, ce sont principalement des marchés de la vulnérabilité. Donc oui, il y a une part de pratiques récréatives, en effet, et des gens qui vont bien et qui consomment occasionnellement. Mais en fait, le plus gros de ce marché-là, ce sont des malades, ou en tout cas des gens qui souffrent, des gens qui vont mal. Donc quand on dit des bobos des centres-villes, on a le sentiment de quelque chose de léger, de quelque chose qui serait joyeux, etc.
Festif, oui.
Voilà, et donc c'est pas tout à fait juste sur la réalité de ce marché-là.
Mmh. Gilles.
Alors, je suis embêté parce que j'avais utilisé la semaine dernière, quand on a reçu Gaspard Koenig, j'ai commencé en disant j'avais beaucoup aimé le livre, et je le redis avec le vôtre, j'ai beaucoup aimé Les Assoiffés. Je trouve qu'on y apprend beaucoup de choses, a fortiori, comme c'est mon cas, on est loin du monde de l'addiction, et que ça oblige à réfléchir non seulement sur l'addiction, mais que ça oblige à réfléchir sur la société. Et la deuxième remarque que je me suis faite, c'est que le débat public se concentre beaucoup sur un entre-deux qui n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la question ni de suffisamment haut. Le suffisamment haut, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est le Mexique, c'est les transporteurs, c'est les GAFAM qui permettent la livraison, c'est les Émirats qui permettent le blanchiment, ni de à l'inverse, à l'autre bout du spectre, de suffisamment de très bas, et c'est ce que vous faites, et c'est ça qui est vraiment passionnant. Un livre qui est à la fois dans l'écoute, qui est à hauteur de femmes et d'hommes, et où l'addiction, je vous cite, est à la fois un trouble et un miroir. La question que je voudrais vous poser pour commencer, c'est est-ce que la crainte qu'on peut avoir un peu en tirant le fil de l'ensemble de ce que vous dites, que nous sommes seulement au début, je ne sais pas si on qualifie ça d'une épidémie, mais en tout cas de quelque chose qui risque de se développer pour des raisons qui tiennent à la fois à l'offre, ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de plus en plus de produits et de choses très différentes, que c'est de plus en plus facile, que c'est de moins en moins cher. Donc il y a l'offre et puis il y a le contexte. Une société moderne addictogène par excellence, pour reprendre là aussi votre formule. Est-ce qu'on est au début seulement de quelque chose de plus grande ampleur ?
Camille Charvet.
Alors, je crois que les personnes qui essaient de prédire l'avenir se trompent généralement, donc je vais essayer de ne pas tomber dans cet écueil. Mais ce qui est certain, c'est que... Bon, il y a des produits d'addiction qui, quand même, diminuent dans leur nombre, hein, notamment l'alcool, qui était le produit phare de l'addiction en France, dont la consommation ne cesse de diminuer.
Tabac aussi.
Et le tabac aussi, et le cannabis aussi d'ailleurs. Donc les produits traditionnels en fait diminuent, et ça c'est largement dû à une prise de conscience, une volonté de la part des citoyens de faire autrement avec leur consommation. Mais c'est vrai qu'en parallèle de ça, on assiste à une augmentation d'un tas d'autres pratiques addictives, comportementales d'une part, mais aussi tous ces nouveaux produits qui ne cessent d'augmenter et dont on peut se dire qu'elles vont peut-être prendre de plus en plus de place sur le marché. Donc c'est vrai que je ne sais pas si on peut être tout à fait rassuré de la baisse de certains produits puisqu'on voit qu'il y a une augmentation d'autres, oui.
Dans votre livre, vous écrivez « Les patients addicts sont bien plus des personnes qui ont peur des autres ». J'ai noté cette phrase parce qu'elle m'a marqué. Ça veut dire quoi sur votre pratique? Ça veut dire quoi sur la société? Peur des autres, ça veut dire quoi? Et pourquoi est-ce que ces gens-là sont plus addictifs que d'autres?
Je crois que ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est à quel point le lien, la relation, était quelque chose d'absolument vital et fondamental pour ce que nous sommes, des animaux humains. Et en même temps, à quel point c'était difficile et c'était fragile. C'est quelque chose qui demande d'être construit avec attention, d'être soigné. Et ce que je constate avec mes patients tous les jours, c'est à quel point cette question-là revient. Et elle revient bien souvent dans les cause même du début de l'addiction. C'est-à-dire qu'après, l'addiction, c'est quelque chose qui va malheureusement fonctionner pour elle-même et donc ça va amener à des tas d'autres traitements. Mais quand on demande aux patients comment ça a commencé, bien souvent, on trouve des raisons profondes et bien souvent, c'est dans le lien à l'autre. C'est pouvoir parler en soirée, être à l'aise, ne pas réfléchir à ce que les autres vont penser de nous, ne pas se demander si on est bête ou pas drôle ou moche, etc. Et souvent, quand on est envahi par ces questions-là et qu'on trouve un produit qui suspend ça, ça peut être assez puissant.
Et c'est là que se déroule le fil de la société dans laquelle on vit, où il y a une exigence de démonstration, de présence, de performance, de présentation à l'autre. C'est là qu'on touche, tout à coup, votre livre bascule sur nous et sur la société, sur les gens qui ne sont pas addicts, mais qui construisent aussi un monde dans lequel l'addiction est une réponse.
Oui, alors, la question du rapport à l'autre, je pense que c'est quelque chose qui est assez fondamental dans le cœur humain et qui est peut-être moins lié à notre époque. Mmh. En revanche, là où ça se télescope avec des éléments de société, je trouve que c'est beaucoup dans la question du rapport au temps, à la temporalité, à l'accélération en fait, généralisée de notre époque. Bon, y a un tas de penseurs qui l'ont dit très bien, et au fait que ça laisse assez peu de place au manque, au désir, à la frustration, qui sont autant de parades nécessaires pour ne pas tomber dans une logique addictive. La logique addictive, c'est la logique du tout de suite maintenant, de quelque chose qui doit être soulagé dans l'immédiat et qui s'oppose à une forme de construction. Donc s'il faut aller très vite, être très performant, ressentir tout de suite ce qu'on veut ressentir, c'est quand même beaucoup de choses qui peuvent mener à l'addiction.
Natacha, je pense que ça résonne avec vos idées, vos sujets sur le temps, l'importance du temps et la disparition de la construction sur le temps plus long, du plaisir, du désir et les réponses immédiates. Natacha.
Écoutez, je vais vous dire, je pense que ce livre est admirable et qu'il devrait être lu en particulier par tous les décideurs politiques. Surtout dans un moment où la psychiatrie en France est en voie de paupérisation, alors même que ce livre montre à quel point il y a une nécessité absolument gigantesque. Et surtout, ce livre traite de tous les éléments avec une finesse assez extraordinaire. Et ce livre nous apprend également ce que font les drogues dans le cerveau, et c'est extrêmement intéressant. Mais il me semble que pour commencer, il y a une... Vous abordez la question que posent d'ailleurs beaucoup de vos patients, de la structure addictive, cette idée qu'il y aurait une structure addictive, c'est-à-dire des gens qui seraient peut-être plus prédisposés que d'autres à sombrer dans l'addiction. Avec cette question vertigineuse qui est derrière, qui est la part de l'inné, la part de l'acquis, et surtout, évidemment, la part des traumatismes. Vous précisez que quand on a été abusé sexuellement, on a 4 fois plus de risques de tomber dans l'addiction. Comment pouvez-vous nous raconter ce rapport, justement, de chaque individu à cette dimension vertigineuse? Quelle est la part de l'inné? Quelle est la part de l'acquis? Comment, et quelle est la part de la société elle-même?
Camille Charvet.
Alors, les médecins s'en tirent souvent avec une pirouette, ils disent les maladies c'est bio-psycho-social, donc il y a un peu d'inné, un peu d'acquis, bon c'est peut-être un peu facile de répondre comme ça, mais, et c'est vrai que c'est une question que posent beaucoup les patients, et parfois ils viennent en disant ça, moi je sais que de toute façon j'ai une personnalité addictive, ils disent souvent d'ailleurs, c'est une formule... Alors, il semblerait qu'il y aurait une dimension... héréditaire biologique, mais il n'y a pas un gène, ça on n'a jamais trouvé isolé.
Il n'y a pas un gène de l'addiction.
Il n'y a pas un gène de l'addiction, mais il semblerait qu'il y ait quand même une dimension héréditaire, et alors là, à voir si c'est quelque chose qui serait dans les gènes eux-mêmes ou autour des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est cette espèce de petit cortège autour de l'ADN qui peut se modifier au cours de la vie, mais qu'on peut malheureusement transmettre. Bon.
Mais ça ne serait pas, pardonnez-moi, ça ne serait pas aussi une question, et je reviens avec ce que vous disiez tout à l'heure, de lien. L'hérédité, c'est aussi de l'éducation, et donc on peut imaginer que ça passe pas forcément par les gènes, mais par l'éducation, tout simplement.
Absolument, et c'est pour ça que c'est très difficile de faire la part des choses, mais il y a quand même des études qui essaient de limiter ce biais-là. Alors, il n'y a pas un profil, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs structures possibles de personnalité qui peuvent être des facteurs de risque d'addiction, mais en fait, il n'y a pas une personnalité type, ça c'est pas le cas. Mais il y a un certain nombre de choses, à la fois dans son hérédité biologique et historique, et ensuite, dans la façon dont la vie va se construire, avec une énorme part, comme vous venez de le dire, malheureusement des traumatismes, qui vont pouvoir favoriser en fait l'arrivée de l'addiction dans une vie.
Et toute forme d'addiction, on peut croiser 2 critères qui seraient pas un critère génétique ou héréditaire, et un type d'addiction en particulier. Par exemple, est-ce que l'alcool va toucher davantage ceux-là, les amphétamines plutôt d'autres, les antidépresseurs encore d'autres? Est-ce qu'on arrive à conceptualiser un peu ça?
Alors, déjà souvent quand même, chez les personnes qui ont des addictions, on voit des transferts d'addictions. Donc il semblerait quand même que toutes les addictions soient cousines. Néanmoins, ça c'est quelque chose que je vois plutôt dans ma pratique. Ouais. C'est-à-dire que certaines personnes vont aller plutôt vers certains produits parce qu'ils ne produisent pas tout à fait la même chose dans le cerveau. Et donc ils ne produisent pas le même effet. Donc on peut comme ça, de façon empirique... voir des choses. Mais il n'y a pas d'études claires qui le montrent. On ne peut pas dire telle personne aller vers l'alcool, telle personne aller vers... Mais c'est quelque chose qu'on sent comme praticien quand même.
Gilles. Il y a une autre chose qui m'a frappé quand on continue de creuser cette question du profil des personnalités, des gens qui sont addicts. Montrer que ça peut toucher tout le monde, à la fois quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, quel que soit le lieu. Donc c'est la formule d'Emmanuel Macron sur les bobos de centre-ville, je crois, était vraiment malheureuse parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. On a évoqué cette dimension de subjectivité, le rapport à l'autre et ses difficultés. Il y a un élément qui est une dimension qui est assez transversale, que j'ai trouvé transversale, qui est celle du genre. Vous montrez que dans les centres d'addictologie, 75% des patients sont des hommes, mais que, à l'inverse, dans les cabinets de psychologues et de psychiatres, il y a une majorité de femmes. Montrer que les produits ne sont pas exactement les mêmes, que les modes de consommation ne sont pas exactement les mêmes, mais ce qu'il y a une dimension genrée aussi à l'addiction.
Camille Charvet.
Oui, c'est ça qui est passionnant avec l'addiction, c'est-à-dire que on la voit partout, dans toutes les catégories sociales, mais il y a une coloration forcément sociologique aux addictions, parce qu'on n'a pas accès aux mêmes produits, parce que le regard social va aussi influencer nos comportements. Et il est vrai qu'à l'hôpital, j'ai principalement des hommes comme patients, et au cabinet, j'ai principalement des femmes. Historiquement, les lieux où on pouvait se procurer de la drogue étaient quand même des lieux très dangereux, et donc c'était aussi moins facile pour une femme d'y accéder. Enfin, c'est... Mais bon, il y a toujours eu une addiction à l'alcool chez les femmes qui a été cachée. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il semblerait que les femmes soient sous-estimées dans les chiffres de l'addiction. Et bien souvent, quand j'ai des femmes en consultation, elles me disent que personne n'est au courant. Mais parfois, avec des consommations hyper importantes, elles peuvent être en couple, mère de famille, elles me disent non, personne n'est au courant, ce que je trouve effarant. Donc elles se cachent aussi énormément.
Elles se cachent ou bien on ne les regarde pas assez ?
Alors c'est probablement les deux, parce que parfois quand elles me décrivent la façon dont elles vivent, je me dis mais comment est-ce qu'on peut ne pas voir ? Enfin, comment le travail, le conjoint peut ne pas voir ? Mais elles font aussi énormément d'efforts pour ne pas montrer... Parce qu'il y a une honte. Alors, chez tous mes patients qui ont des addictions, la honte est présente. Important. Mais chez les femmes, le mot arrive tout de suite, presque dès la première rencontre. La honte est très très forte.
Natacha.
Alors, la psychanalyse est née avec Freud par l'observation des névroses, c'est-à-dire ces pathologies liées à l'enfermement des pulsions, en fait, la répression des pulsions. Et vous expliquez que le développement des addictions, qui serait en fait le mal du siècle, viendrait aussi du rôle des sociétés déritualisées, du fait qu'on demande à l'individu de se structurer tout seul et que ce serait une sorte de pathologie de l'autonomie. Oui. Si on ajoute à ça le consumérisme qui s'appuie sur les pulsions pour créer de l'addiction, je cite votre phrase, vous dites « c'est une vaste ambition, celle de construire une société où les libertés puissent s'épanouir au sein de limites qui sachent inclure la différence, apaiser et structurer tout à la fois. » Va-t-on réussir à penser, sans être totalement utopiste, cette société-là, dans un cadre dont on voit qu'il est au contraire fait pour créer de l'addiction, des pulsions ?
Camille Charvet, sommes-nous trop seuls, d'une certaine manière ?
En tout cas, un tas d'autres médecins et de psychiatres parlent d'épidémie de la solitude, du fait que malgré que nous soyons extrêmement connectés à de plus en plus de personnes, en fait, il y a un ressenti de solitude qui grandit. Mais oui, je développe cette idée que j'ai aussi beaucoup lue chez Pierre-Henri Castel, qui est ce psychanalyste et philosophe qui a fait un travail monumental sur l'histoire des symptômes et l'histoire de la psychiatrie, et qui a très bien montré comment est-ce qu'au 19e siècle, la psychanalyse s'était construite justement pour traiter des personnes qui étaient plutôt... inhibés, qui étaient plutôt en conflit avec une société qui pouvait trop les brider, et comment est-ce que maintenant, au contraire, explosaient des... Et c'est quelque chose que l'on constate, hein, c'est-à-dire que c'est la réalité du terrain aussi, explosent les pathologies plutôt du passage à l'acte, qui sont liées à une forme d'intolérance à la frustration, où il semblerait qu'il n'y ait plus aucune balise, aucune limite qui permette de se structurer de façon solide. Enfin, je veux dire, quand ça devient pathologique, parce qu'évidemment, heureusement, il y a quand même des personnes qui arrivent à se construire correctement. Et donc, je crois que ça demande en fait de réfléchir, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire en prenant plus de hauteur, à comment est-ce qu'on peut aider à construire des petits êtres humains qui arrivent à avoir à la fois des balises et en même temps à vivre en liberté.
Justement, comment réussir? Comment réussissez-vous et tentez-vous de soigner les gens victimes d'addictologie ? Votre livre est aussi un hommage à un homme, le professeur Levenstein, et à son service addictologie dans lequel vous travaillez aujourd'hui, de l'hôpital Marmottan. Je vous propose de revenir en 1971. Un reportage était consacré à cette magnifique aventure.
Rue d'Armaillet, près de l'Étoile, un vieil hôpital fermé depuis 3 ans, l'hôpital Marmottan. On y soignait les grands brûlés, les accidentés de la route. Aujourd'hui, il ouvre à nouveau ses portes pour accueillir ce qu'on appelle les drogués. Mais le patron de cet hôpital pilote, le docteur Levenstein, préfère les appeler les toxicomanes. Pour lui, ce ne sont pas des délinquants, mais des malades.
Comme vous le voyez, nous avons essayé de faire un accueil le plus chaleureux possible avec ce qui fait partie de la culture des jeunes générations, c'est-à-dire les posters des idoles du pop. Alors cet accueil doit fonctionner 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'il y aura toujours ici un accueillant, et je souhaite que cet accueillant soit un ancien toxicomane.
Je vous ai vu arborer un très grand sourire en écoutant cela. Il y a des choses intéressantes, hein. Les toxicomanes sont des malades et pas des délinquants. On les accueille dans un cadre agréable, avec des posters du monde du pop pour les jeunes gens de l'époque, et un toxicomane, ancien toxicomane, à l'accueil. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
Oui, j'ai l'impression que rien n'a changé.
C'est que ça devait marcher.
Oui, c'est ça. En fait, la question de l'accueil chaleureux est fondamentale en addictologie, puisque comme on a dit, c'est une question de lien, et bien souvent une question de lien qu'il faudra restaurer ou apprendre à vivre autrement. Donc c'est un premier pas vers le soin, cet accueil chaleureux, ouais. Avec un café, avec un gâteau, oui.
et un ancien toxicomane qui est à l'accueil toujours ?
Oui, alors ce qu'il appelle les accueillants, on les appelle toujours les accueillants à Marmottan, mais maintenant on aime bien dire père aidant.
Ah oui, enfin, père aidant.
Voilà. Nous on est un peu rétro, donc on dit toujours accueillants. Et ils sont très importants dans le soin, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, ils sont nombreux, ils font partie de l'équipe et on travaille au quotidien ensemble, on suit les patients ensemble. Et ils m'ont appris énormément de choses en réalité.
Et pourquoi c'est important d'avoir un ancien toxicomane pour accueillir les toxicomanes du moment ?
Alors, j'aimerais d'ailleurs revenir sur le fait que Olivenstein dit ce ne sont pas des délinquants, ce sont des malades. Néanmoins, il a tenu à ce qu'on appelle les patients les clients, alors qu'ils ne paient strictement rien, hein, c'est totalement gratuit.
On dit aujourd'hui encore ?
Alors, les vieux de la vieille le disent encore, d'accord. Les jeunes générations ont un peu de mal à dire clients, ouais. Mais enfin, c'était le terme historique, on appelait les patients les clients, pour dire qu'ils venaient avec leur liberté, avec leur agentivité d'une certaine façon, c'était pour leur donner un rôle actif et ne pas être dans cette asymétrie du lien qui, par ailleurs, demeure hein, avec un soignant. Mais qui peut paraître extrêmement jugeante parce qu'on a parlé de la honte dans l'addiction. Et donc, les patients clients pouvaient la ressentir très fort. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir ces accueillants qui sont là en première ligne et qui reçoivent d'abord les patients pour être dans une relation totalement libre où il n'y a pas la question de la honte ou du jugement.
Ça dit quand même que ce sont des malades, certes des malades, mais pas comme les autres. Tout de même. Quoique, on pourrait très bien envisager des anciens malades d'un cancer pour accueillir dans un service. Ça pourrait aussi aider peut-être à créer du lien et de la confiance. Gilles ?
Je vais vous poser une question sur vous, en fait. Pas seulement sur les patients ou les clients. On voit à quel point le métier que vous faites est un métier dur, parce qu'il y a vous avez des patients qui souffrent. Vous avez des patients qui sont, et c'est lié à l'addiction, qui sont souvent erratiques. Vous disiez des clients, ils viennent, puis ils ne viennent pas, ils réussissent ou ils rechutent. Parfois, tout ça prend beaucoup de temps. On voit les difficultés, vous dites qu'il faut se rapprocher du point où l'autre se situe, mais il faut placer des limites. Et en même temps, on sent l'attachement, c'est un mot que vous utilisez beaucoup, à la fois l'attachement réciproque avec vos patients, l'attachement à cette communauté particulière qui est celle de Marmottan, l'attachement à votre métier. Pourquoi vous faites ça ?
C'est vrai. Pourquoi vous avez abandonné la philosophie pour devenir médecin et psychiatre en particulier ? C'est quoi le chemin ?
J'espère ne pas avoir abandonné tout à fait la philosophie. Mais quand je faisais de la philosophie, je m'intéressais déjà aux questions de psychiatrie. Et c'est là-dessus d'ailleurs que j'avais travaillé. J'avais travaillé sur la question de la texture du temps dans une perspective psychiatrique. Donc en fait, mes préoccupations étaient déjà là. Et j'avais envie d'être peut-être plus directement sur le terrain, de ressentir mon utilité de façon plus directe. Ça, c'est sur la question du cheminement. Après, pourquoi est-ce que je fais ce métier ? On peut toujours raconter les choses, raconter l'histoire rétrospectivement. La psychanalyse a beaucoup théorisé le contre-transfert, c'est-à-dire qu'est-ce que nous font vivre les patients et qu'est-ce que ça dit d'eux. Et c'est vrai que les patients en addictologie nous font vivre énormément de choses du point de vue du lien et nous mettent d'une certaine façon dans leur intensité avec laquelle il faut parfois danser en quelque sorte. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre d'une danse. Je pense que moi, j'aime beaucoup ne jamais m'ennuyer. J'aime beaucoup quand les choses sont très intenses. J'aime beaucoup quand il se passe des nouvelles choses tous les jours. Et c'est ce que font vivre aussi beaucoup les patients.
Natacha, pour terminer rapidement.
Pour terminer sur ce rapport au temps, vous venez de prononcer le mot ennui et vous expliquez que le risque dans le sevrage, c'est souvent qu'il faut retrouver l'ennui. Est-ce que, en fait, l'addiction, c'est l'incapacité à vivre pleinement ici et maintenant sans aide ?
Éloge de l'ennui.
Oui, alors on me pose beaucoup la question de l'ennui, et c'est vrai que le terme peut-être peut prêter à confusion, c'est-à-dire que le but c'est de pouvoir vivre le temps, et parfois on appelle ça de l'ennui, mais en réalité quand on arrive à le vivre pleinement, on ne trouve que c'est, enfin, c'est plus du tout ennuyeux, c'est beau et c'est génial. Mais oui, en effet, il y a cette question de pouvoir vivre le temps sans que ce soit une douleur, sans que ce soit un ennui insurmontable, mais plutôt de l'apprivoiser et d'en faire son ami.
Est-ce que vous arrivez à soigner des gens ?
Oui, absolument.
On soigne des gens de l'addictologie ?
Oui.
En addictologie ?
Oui.
Oui, et des gens même qui sont très loin dans l'addiction ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? c'est un peu difficile de répondre comme ça, vu la diversité des patients et des situations. Il est vrai que ça demeure pour chacun une fragilité, mais néanmoins on s'en sort.
Merci, merci pour ce dernier mot d'espoir, merci beaucoup. On lira avec beaucoup d'attention Les Assoiffés de Camille Charvet, c'est aux éditions Grasset. Merci d'avoir été avec nous, merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, aujourd'hui Laurent Baudouin, à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour les premiers épisodes d'une toute nouvelle série, États-Unis, Amérique latine, anatomie d'un impérialisme, avec l'historien Olivier Compagnon, cette conversation que vous pouvez déjà écouter sur l'appli Radio France.